Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, les radios de la Ferrarock vous proposent un retour sur la prestation live de Holtis, artiste de la cuvée Inouï 2026 qui performait donc à Bourges en avril dernier. Extrait à retrouver en fin d'émission. Soutenu par les radios de la Ferrarock, la musique folk, baroque et drone de Lutèce Loch Ness, cette chanteuse et violoniste française basée à Bruxelles sort son premier album nommé Le Chat, que l'on découvrira aux côtés de Jordan de Radio Méga à Valence en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, toujours côté découverte, mais dans un tout autre registre, un trio nommé Les Américains, mais il ne sera question ni de folk, ni de country, mais bien de garage punk, le tout produit depuis Paris. Écoute et interview par Lucie de la radio Westrack au Havre. I'm a feminist, I'm a communist,
I'm a bit on edge. Salut les Diggers, l'EP Heart Attack du groupe Les Américains est paru cette semaine et au bout du fil, Yvan est avec nous pour nous présenter cette belle aventure. Salut Yvan, bienvenue sur Dig Dig Diggers.
Salut, merci de me recevoir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la team avec laquelle tu as travaillé sur ce projet et avec donc le groupe Les Américains ?
Ouais, bah Les Américains, donc c'est Clémentine de Champfleury à la batterie qui est batteuse et chanteuse, avec laquelle on permute sur scène, voilà, puisque je fais aussi de la batterie et je suis chanteur, donc voilà. Et Nicolas Puot qui est guitariste, et voilà, puis on n'a pas de bassiste. Et puis il y a moi, Yvan, qui suis chanteur et compositeur du groupe, voilà. Et comme je le disais, je passe du chant à la batterie et de la batterie au chant pendant le concert.
Du coup, j'imagine que la batterie a une place importante dans votre groupe en vue de ton rôle à toi et celui de Clémentine.
Ouais, tout à fait. Bah, l'idée du groupe au départ, c'était de renouer avec une pratique très simple, amateur, quoi, retrouver une énergie de répète d'ado quasiment. Et dans l'inspiration un peu des power duo, le plus connu, c'est les White Stripes, hein, mais bon. Pas mal, voilà. Et puis aussi de renouer avec un punk blues hyper primitif, quoi. Voilà. Donc avec des drums très simples, c'est presque interdit de faire des roulements, quoi, dans le dans la structure du groupe, voilà. Et sachant qu'il y a que batterie et guitare.
Et ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, du coup, pour ce trio?
Oui, ça fait quelques années en fait. Il y a eu une interruption un petit peu longue, mais on a démarré en 2012, on a fait un premier disque, on a pas mal tourné à l'époque, et il y a eu un arrêt en fait entre 2016 et 2025, quoi, à peu près. Chacun avait des choses à faire et tout ça, et on s'est retrouvés, on s'est dit voilà, ce serait super qu'on ressorte un nouvel EP, et puis il y avait des dates qui s'annonçaient, il y avait plein de choses qui, les planètes s'étaient alignées à nouveau, donc on a repris le chemin du studio. Should I take my
medication? Et pendant ces premières tournées, est-ce que vous êtes passé aux États-Unis? Écoute, normalement, c'est une question qu'on pose pas, mais ça me démange. Je veux quand même savoir pourquoi vous vous appelez les Américains.
Ah ouais, il y a une bonne. En fait, la raison, elle a rien à voir avec.
Okay.
C'est le nom des sandwichs en fait, voilà.
Ah, le sandwich américain.
Ouais, un américain. C'est ce qu'on peut trouver. Alors, c'est pas du tout un nom parisien. Hein. C'est plutôt le nom qu'on donne à ces fameux sandwichs qui imitent de loin le hamburger, etc. C'est de la baguette avec des cachets ou de la viande et puis des frites par dessus, quoi. Voilà, c'est ça l'américain. Et voilà, ça part de là. Mais ça part aussi de l'idée que tout vient un petit peu de là-bas, hein, dans la musique qu'on fait, même si c'est une musique qui a été qui a pas été réanimée par les, je veux dire, le blues punk n'est pas revenu par le biais des États-Unis, mais ça a été plutôt le fait de groupes anglais au départ. Qui ont remis ce truc au goût du jour. Quoi.
Ok, maintenant qu'on a passé cette question, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. C'est donc cette EP qui s'appelle Heart Attack. Quand vous l'avez terminée justement, cette EP, c'était quoi votre premier sentiment ? Est-ce qu'il y avait de l'excitation, du soulagement ou même peut-être des doutes après un travail que vous avez fait à nouveau, après un petit temps de pause ensemble ?
C'est un peu tout ça. N'importe quel artiste doute là, à l'issue de l'enregistrement, quoi, hein, et puis des premiers mix, etc. C'est aussi un soulagement parce que ça a été un travail assez intense et qu'on a choisi de faire dans des conditions particulières. On a fait comme pour notre premier EP, qui s'appelait Twist Alone à l'époque, et donc on avait décidé de tout enregistrer live. Voilà, c'est-à-dire d'arriver au studio, de jouer tous les trois ensemble, ce qui me paraissait important parce que moi j'ai passé pas mal d'années dans une carrière précédente de chanteur français plutôt, à beaucoup travailler en studio tout seul, etc. Et je voulais plus du tout faire ça. Par rapport à ce qu'on fait aussi nous, c'est-à-dire on est un groupe quand même qui est très scénique et qui est très sur l'intensité, je voulais absolument retrouver ce truc-là en studio, ce qui est pas facile du tout. Voilà. Donc on s'est ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on s'est isolé sur l'île de Groix, dans une toute petite maison avec Jonathan Diffroy, qui a notamment fait le dernier Frustration, et puis c'était parti pour une semaine complète d'enregistrement, quoi. C'est-à-dire voilà, en fait le schéma, c'est que c'est court, on prend des prises directes, il y a très peu de re-re, peut-être les voix qu'on refait un petit peu, etc., mais voilà, on voulait faire en plus dans des conditions particulières, assez rough, assez naturelles, quoi.
Et justement, c'est un EP 7 titres. Sur cet EP 7 titres, est-ce qu'il y a un titre en particulier qui vous a demandé le plus d'acharnement, justement, où il a fallu refaire et retravailler ?
C'est une très bonne question. Il y en a eu qui ont été plus difficiles que d'autres. Je pense que Anger Back a été plus difficile parce que c'est un rythme plus chaloupé, un peu moins habituel pour nous. Pareil, je dirais que Boboland, par l'intensité du morceau était un petit peu plus dur à coucher, quoi, parce que c'est un morceau sur lequel on est très très lâché sur scène, et là ben, le studio a ses exigences, faut quand même que ce soit très, que le morceau reste bien lisible, etc., quoi. Voilà, on a un petit peu plus peiné, quoi, on va dire. But the mission is strange. I think the pilot we could be a better option. We could beat another bubble. Boboland. Est-ce que tu dirais qu'il existe une version différente de l'EP Heart Attack que nous on connaît, qui dort sur un disque dur, avec, j'imagine, des chansons qui n'ont pas eu leur place dans l'EP? Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. En fait, on avait plutôt travaillé assez efficacement, quoi, de façon très intense, en 5 jours. Et le sixième jour, on était assez fatigués, etc. Donc, on a fait des versions alternatives en français.
Ok.
Voilà, parce que c'est toujours hyper rigolo, quoi, de retraduire directement de façon très basique les textes en anglais en français, voilà. Mais ça, je crois que personne les entendra jamais. Ça va rester entre nous et Jonathan.
On peut imaginer. Est-ce qu'il y a une chanson que vous avez trouvée géniale, mais que finalement vous n'avez pas envie de sortir parce que justement elle est peut-être trop éloignée aussi de l'esthétique ou de ce que vous proposez habituellement ?
En fait, on a failli ne pas mettre Boboland parce que j'ai hésité. En fait, on a hésité jusqu'au bout pour la mettre et ne pas la mettre, etc. À l'issue des mixages, parce qu'elle est, elle part pas vraiment dans une autre direction, mais c'est un morceau. Il fait moins de 2 minutes. Il est complètement. C'est un morceau surexcité, etc. Et j'étais pas absolument sûr de l'avoir couché correctement. Voilà. Et puis finalement, en réécoutant tout, je me suis dit, ah, quand même, elle est indispensable parce qu'elle est très symbolique de notre répertoire. Voilà. Alors, elle est pas parfaite, mais on l'a mise quand même.
Ah bah, vous avez eu bien raison. Je voulais qu'on parle un peu de la pochette de l'album qui est très colorée. C'est une photo avec autour un cadre rouge et bleu. C'est qui sur la photo ?
Alors, on ne connaît pas le monsieur qui est sur la photo.
Okay.
En fait, c'est la photo d'un photographe que j'ai rencontré il y a quelques années, qui s'appelle Tooms, c'est son pseudo, Thomas Valère Gosset, qui depuis en fait, il a arrêté, il a fait pas mal d'expos, etc. Et j'adorais son style hyper brutal. Voilà, en plus, c'est une photo qui est retravaillée, c'est-à-dire on voit il a arraché les yeux du personnage, etc. C'est quelqu'un qui traînait beaucoup dans les milieux un peu underground du côté de Bordeaux. Notamment, et du coup il faisait pas mal de photos dans des fêtes, des choses assez marrantes, assez délirantes. À l'époque, je lui avais acheté une photo d'un gars en skate qui se casse la gueule avec sur l'épaule un énorme poste de radio, enfin voilà. Et donc je suis revenu vers lui parce que j'avais ce bon souvenir, et il a gentiment participé, quoi. C'est-à-dire, il m'a dit écoute, ça, oui, ça me fait plaisir, voilà. Il a joué le jeu, quoi, hein, pour la mise en couleur. Je voulais la rendre encore plus intense. Si tu avais envie d'une pochette qui vibre, voilà. C'est ce qu'on a essayé d'obtenir avec ce bleu et ce rouge. D'ailleurs, suivant la lumière, vibre très très fort ou pas.
Sur les réseaux, vous partagez plein de choses. On a pu suivre la création de cet album, en fait, de son enregistrement avec des petites vidéos et, ici et là sur Instagram, notamment des enregistrements dehors, mais aussi dans une baignoire. Bref, c'était quoi vos routines d'enregistrement ?
Pour un groupe de punk rock, on était extrêmement sérieux. C'était en place à 10h et jusqu'à 18h. Voilà. L'enregistrement dans la baignoire est authentique. En fait, on a fait toute une partie des voix dans la salle de bain de cette petite maison, donc c'était une toute petite salle de bain. Voilà, on s'offrait une bière à 16h, quoi. Et bon, après le soir, on allait quand même, on allait boire un coup tous ensemble au troquet du village, quoi. Voilà, on travaillait dur. les journées sont assez intenses. Quand on fait 8 heures d'enregistrement, c'est assez intense, quoi. C'est ça.
Et donc l'enregistrement dans une baignoire, c'est quelque chose d'habituel pour vous ?
C'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Là, c'était la première fois, on avait enregistré dans un studio à l'abandon, les anciens studios Vogue, qui sont près de Paris, qui étaient près de Paris. Hein. Donc Vogue, c'est des gens qui avaient enregistré tous les artistes de variété, hein, de l'époque. Hein. Gainsbourg, Hallyday, Sardou, etc. Voilà, et les studios étaient magnifiques, mais en ruine un peu. Ça a été récupéré par des gens fans de son et qui avaient remis des tables, des vieilles tables, etc. en route. Voilà, donc c'était un petit peu particulier. On aime bien, en fait, nous, les lieux spécifiques et Groix. C'est une île que j'adore et tout ça. Et c'est un endroit qui est extrêmement fort, en fait, en termes d'énergie. En plus, on était tranquille. Hein, c'était au bout de l'île, à l'ouest, là. Les lieux ont beaucoup d'importance pour nous.
L'album, il est enfin entre nos mains, ça y est, on peut le découvrir. Après toute cette période d'enregistrement, vous commencez à monter sur scène et pouvoir vous produire et partager cet album. Il y a eu un passage au Supersonic en avril, c'était comment ?
C'était super, le Supersonic porte bien son nom. l'accueil est toujours très bien et puis il y a la programmation est top aussi, quoi. On se retrouve avec des soirées, avec des groupes qui sont apparentés mais variés, quoi. Voilà, notamment un groupe de Manchester qui jouait après nous, qui s'appelle Conk, et qui font une espèce de country punk très cool, quoi. Voilà, c'était une très bonne soirée. Il y a du monde à chaque fois, hein, puisque c'est un endroit qui est gratuit, en fait, ce qui est assez dingue. C'est un vrai lieu avec une vraie scène et en même temps c'est un lieu qui est gratuit, donc qui permet à tout le public rock qui est plutôt un public d'étudiants et de gens qui n'ont pas forcément les sous, quoi, de pouvoir avoir des bons concerts pour le prix d'une bière, quoi.
Et ça annonce une tournée par la suite pour vous ?
Ouais, alors on va faire une prochaine date toujours à Paris. À Montreuil au Chinois, qui est une super salle rock aussi. Et en revanche, à la rentrée, il y aura une série de dates. Là, on est en discussion, donc je peux pas complètement les confirmer, mais on va plus faire des dates en région, hein, puisque on en a un peu non pas ras-le-bol, mais on aimerait aller au parc à Paris, quoi, que tourner à Paris. On commence à connaître un peu les salles. On va néanmoins jouer au festival Septembre Indien à l'église Dominique Montand et on a une date qui est en train de se mettre en place au mois d'octobre au Mans, voilà. On espère aussi pouvoir jouer à Rennes, Tours, on est en discussion en ce moment avec les lieux.
On garde un œil sur les réseaux sociaux en attendant donc ces dates. Et vous avez envie de passer aux États-Unis justement pour rencontrer les Américains ?
Ah oui, on aimerait beaucoup, ouais, bien sûr. Ça voudrait dire monter une date, une petite tournée spécifique. On est déjà potes avec des groupes américains.
C'est déjà ça.
Donc déjà ça pourra nous aider.
Et comment ils disent avec leur accent les Americans en parlant de vous?
J'adore les Americans. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ce qui est super, c'est que justement auprès de groupes de rock américains, on était très contents de découvrir qu'on était un groupe très crédible, quoi, qui s'intégrait parfaitement dans la scène punk rock aussi, quoi.
Et voilà, vous ne pouvez pas oublier donc le nom de ce groupe, Les Américains, avec un EP qui s'appelle Heart Attack. On va se quitter. Moi, ça m'a donné envie de manger un sandwich américain, du coup. Merci beaucoup, Yvan. Et puis à bientôt sur les radios Ferrarock.
Oui, à bientôt, Lucie. Avec plaisir. I wanna live more, I can. I want to love than you. I wanna love more than ever. I just want more freedom. I wanna shit in my brain. Being my people like a beast. I wanna roll like a baby. Won't be a freak out the list. Follow me for a ride. In a cold for a ride. In a cold for a ride. Crush myself. I want much more memories.
ocean.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock. Venue de l'underground et au-delà, la performeuse Lutèce Loch Ness présente son projet Le Chat au micro de Jordan de Radio Méga.
C'était And the Love is Born in Me for a Stone de Lutèce Loch Ness, dont le premier album, Le Chat, soutenu par la Ferrarock, sort sur le prestigieux label Pan-European Recordings. Lutèce Loch Ness est une artiste totale, une jeune femme chanteuse et compositrice à l'univers perché qui trouve l'inspiration sous un masque de chat avec un accent circonflexe pour créer des compositions où se mêlent musique baroque, drone planant, rock psychédélique et sonorités médiévales. Elle y trouve un espace peuplé d'onirisme où, à travers des incantations, elle exprime sa colère, sa tristesse et sa révolte contre la violence des humains. Pour parler de son premier album, Le Chat, toujours avec un accent circonflexe, je suis avec Lutèce Loch Ness. Salut à toi et merci de m'accorder cette interview.
Salut.
Alors pour commencer, j'aimerais que l'on parle de ce morceau que l'on vient d'écouter. C'est le plus court de ton album et il dure tout de même presque 7 minutes. Et son titre raconte, dirait-on, le début d'une aventure. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de ce « And the love is born in me for a stone » ?
Déjà, c'est les seuls mots qui sont apparents dans le disque parce que c'est le langage du chat pour me donner le plus de liberté et être dans l'émotion et du coup me connecter le plus possible et que tout le monde puisse avoir accès à cette émotion, mais sans en enlevant les mots, quoi. Et donc j'ai décidé de faire un titre un peu long, j'aimais bien qu'il soit très long, qu'il y ait beaucoup de mots, un peu compliqué, qui veuille dire quelque chose, mais en même temps qui reste très ouvert. C'était un peu un français traduit en anglais. Et je me disais que c'est aussi du coup encore plus enfin, j'aimais bien que ce soit pas un anglais parfait et que ce soit que ça puisse être un indien qui a traduit ou un chinois ou un français ou voilà. Donc voilà, ça c'est son titre. Pourquoi pas être amoureuse d'une pierre aussi, de tout même. Et sinon, je l'ai enregistré, donc composé dans ma chambre. C'est la première fois que je composais en clavier MIDI sur mon ordinateur. Donc tout était numérique. Et j'ai demandé à Maxime Denuc, qui est un artiste français qui vit aussi à Bruxelles, dont j'aime énormément le travail. Et ça m'a beaucoup porté et inspiré, ému et voilà, transcendé son album. Et donc je lui ai demandé un café. Et ensuite, en parlant de si vous l'acceptez d'enregistrer ma composition sur un vrai orgue. Donc lui, il a inventé un mécanisme avec des robots qu'il a co-créé avec des ingénieurs. Et j'aimais que du coup, sur un instrument hyper baroque et très physique, avec du souffle, avec physique quoi, et ancestral, et ben, on entend des sonorités numériques que du coup un humain ne peut pas jouer à la composition de ce morceau. C'est des robots quoi. J'avais envie que ça s'entende, que ce soit des robots, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de notes et qu'il est très chargé. Et par-dessus, j'ai chanté, je me le suis laissé improviser.
Alors, tu as une approche qui est très performative et expérimentale de la musique, et peut-être aussi d'ailleurs de l'art de manière générale. Dans tes morceaux, on est quand même loin du radio-édit et on est souvent complètement dans le paysage sonore. Et il y a dans ta musique quelque chose pourtant de très accessible. J'aimerais que tu nous racontes comment tu composes tes morceaux, comment ils te viennent.
Eh bien, j'écoute beaucoup de musique, j'ai mis du temps à en faire, par pudeur, je pensais que j'avais pas accès, qu'il fallait que je sache en faire. Et par exemple, dans ce morceau, je pense, même en chantant, je pense à des histoires que je me raconte par rapport à moi, donc c'est quand même très sérieux. Enfin, je pense à la rencontre entre la lutèce d'aujourd'hui, la lutèce plus vieille, si elle existera, et la lutèce enfant. Donc ça, c'est ce qui porte mes émotions. Et en fait, il y a une sorte de pluie d'émotions qui vient derrière que je contrôle pas vraiment, mais qui sont sincères, quoi. Et j'essaye de, voilà, j'improvise et je refais. Et il y a un moment, je sens que c'est ça, quoi. Et j'enregistre toutes mes impros. Donc il y a un moment, c'était dur de choisir un peu, mais Arthur du label, justement, m'a aidé à avoir ce recul. Mais en vrai, c'est la première que j'exporte pour l'envoyer à des amis. Souvent, c'est celle-là après. Enfin, c'est elle qu'on a gardée. Donc voilà, c'est un peu la naissance du morceau. Et sinon, j'écoute de la musique et je pense aussi aux artistes que j'écoute. Donc dans cette chanson, j'ai pensé à Alice Coltrane. En fait, c'est ces références qui m'ont appris à chanter, quoi. C'est ces artistes. Il y a Nico aussi, à qui je pense, pour aller chercher dans les graves, dans le souffle. Et donc voilà, parfois j'écoute Alice, j'écoute Nico, selon l'empreinte que j'ai envie de mettre dans le morceau. Et je chante avec elle, je chante avec elle. Et à un moment, il y a je sais pas, ça débloque des choses dans ma voix. Et hop, là, je peux me laisser aller. Et alors là, je passe sur mon morceau. Et voilà.
Alors, quel genre d'instrument t'accompagne quand t'es comme ça, en improvisation?
Ben, franchement, j'improvise avec YouTube. Enfin, j'écoute les gens que j'aime et des fois je me reboucle une chanson. Ou alors le bouzouki que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est sur la première musique de l'album. La guitare aussi. Ouais. Mais c'est souvent sur la musique des autres, je dirais.
Alors, le temps passe très vite et on arrive déjà au milieu de l'interview. On va écouter un nouveau morceau, mais avant, tu vas nous en parler. On va écouter Yama Yama avec Jean Rondeau en featuring. C'est un titre pour le moins intense. J'aimerais que tu nous parles des instruments justement qui peuplent ce morceau et puis ce choix de featuring.
Eh bien, il fallait. Donc, je commençais tout juste à faire des concerts. J'avais un deuxième concert à faire. Et j'avais que un morceau, donc il fallait vraiment que je compose. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est mon style de musique? Parce que je débarquais complètement. Et je me suis dit, le chat m'a permis un peu finalement, de garde-fou, enfin de cadre. Et je me suis dit, le chat, il voyage dans le temps. Et donc, je suis restée sur ce truc d'aller chercher des instruments ancestraux et de les moderniser, enfin de les rendre contemporains, quoi. Enfin, de les rendre, parce qu'en fait, ils sont toujours actuels, ils sont magnifiques, et pas juste de les axer sur une époque et de les remettre. Voilà. Et donc, j'avais un coloc qui faisait du clavecin, et je me suis dit, bah tiens, je vais l'appeler. Et en fait, c'est Jean Rondeau. Mais voilà, il a sa notoriété que je n'avais pas forcément réalisée à cette époque-là. Et il était en train d'enregistrer dans un château sur un clavecin magnifique. Et il m'a dit, oh, je te fais ça en 10 minutes. Et en fait, je lui avais envoyé une composition. Je lui ai demandé de faire des pluies de notes très serrées ou desserrées, enfin plus ou moins dilatées, quoi. Et c'était un peu. Mais j'avais mon idée précise, mais voilà, lui, il a interprété. Et quand j'ai reçu, il m'a fait chanter, je sais pas, 8 patterns. Et ensuite, c'était très compliqué de chanter par-dessus parce que j'étais surprise par l'intensité du clavecin. Et en fait, c'était un beau cadeau. J'ai composé autour avec de la vielle à roue. J'ai mis vraiment une story Insta qui pourrait me faire de la vielle à roue, vraiment. Voilà. Bouteille à la mer. Et puis, il y a Baptiste qui m'a répondu. Et après, j'ai commencé. Vraiment, je pense que je fais du découpage, collage-découpage. Je pense que c'est comme ça que je compose. Et c'est sur des laps de temps différents aussi. Donc, la voix, je l'ai trouvée. Elle était là dès le début. Je l'ai envoyée à Jean. Et puis, en fait, j'ai dû la réadapter autour de son clavecin. Et j'ai rajouté des chœurs et tout, donc elle a été composée sur peut-être 8 mois, je pense. 6 mois, 8 mois. Mais voilà, j'y suis pas du tout tout le temps. J'aime bien parce que du coup, c'est différentes moi aussi qui viennent. Donc c'est ça qui donne toutes les couches de complexité, un peu, enfin de bizarrerie, je sais pas, mais c'est, ouais. Ça devient différentes idées, quoi,
Très,
ensemble.
très inventif, de la musique très inventive. On va écouter tout de suite le morceau Yama Yama featuring Jean Rando, donc extrait de ton premier album Le Chat qui sort sur le label Pan European Recordings.
You're in hollow like this light and day. Yes. I'm power and the lights and I can take you low. You're half of all our best penalty love. This bay half buried and pink.
C'était Yama Yama featuring Jean Rondeau, extrait de l'album Le Chat, le premier opus de Lutèce Lochness qui sort sur le label Pan European Recordings. On le garde en fond sonore pour pouvoir continuer à parler de ce disque en compagnie de Lutèce Lochness. Alors Le Chat, on en parle depuis le début de cette interview, c'est un masque, un costume, des artefacts qui te permettent de révéler plus que de cacher et qui te permettent aussi d'être complètement toi-même d'après ce que j'ai lu. J'aimerais que tu nous dises comment tu as construit cet alter ego. Est-ce qu'il t'est venu naturellement? Est-ce que c'est le fruit de recherche? Je voudrais que tu nous dises aussi peut-être pourquoi sans lui, Lutèce Lochness ne serait pas la même.
Ben, Lutèce Lochness avait du mal à fixer ou à se montrer même sur scène, à assumer de faire de la musique. Pourtant, c'était depuis petite un lourd secret pour moi. Mais en fait, je sais pas pourquoi je voulais que ce soit c'était mon secret. Je pense que c'était tellement précieux que j'osais pas dire que je voulais faire ça parce que je savais pas par où commencer, ni ce dont j'étais capable. Et c'est une amie avec qui j'avais commencé. Enfin, j'ai rejoint un groupe de copines, Four Sissies, dans lequel je fais toujours partie. Donc, une amie, Rosie Sommers, qui fait de la performance, organiser une sorte de cabaret avec que des premières fois. Donc on pouvait s'inscrire et soit faire un karaoké, une danse, voilà. Donc c'est pour les personnes non artistes aussi, ou en tout cas pas professionnelles, qui veulent essayer des choses, ou professionnelles qui veulent essayer autre chose. Et ce projet, je le trouve magnifique de donner cette chance. Et elle m'a vraiment poussée à... Elle m'a inscrite en fait. Et donc leur tournée, on était à 3 semaines et je me suis dit bon bah... Là, il faut que je m'assume. Qu'est-ce que je fais comme musique? J'ai essayé des trucs sur ce bouzouki qu'on m'avait prêté. Et j'avais mis toutes les cordes sur la même note pour que ce soit plus simple aussi, et du delay, et pour essayer de flotter avec. Et en fait, je commençais à faire du blues et des trucs qu'on m'a pas du tout appris, qui sont pas du tout autour dans ma culture. Donc, j'assumais pas trop. J'arrivais pas à écrire de texte. Donc voilà, j'étais avec tous mes blocages face à eux. Et je me suis dit, ok, bah, il faut que j'assume ça en fait. Et donc, qui est-ce que je pourrais être pour que ça existe? Parce que je peux pas l'assumer moi. Et je sais pas d'où il est sorti ce chat. Vraiment, j'ai fait un petit dessin sur la table et je me suis dit, bah, en tout cas, si je suis un animal, même pour plus tard, ça va peut-être m'aider à pouvoir écrire et dire des choses aux autres humains qui vont me juger. Et si je suis un chat, au moins, peut-être qu'on me jugera pas moi directement. Enfin, je sais pas, il y avait une peur comme ça, une timidité. Et j'avais envie d'être plus libre aussi sur ce que j'avais envie de dire. Donc finalement, j'ai toujours pas écrit. Mais le chat m'a vachement porté, quoi. Et m'a permis plein d'autres choses que j'avais pas soupçonnées. Mmh. Et même dans l'imaginaire visuel et dans la suite des morceaux, comme je disais, si les livres de voyager dans le temps, voilà, ça m'a donné des cadres de construction, quoi, pour la musique.
Mais justement, alors parlons de l'imagerie et de l'esthétique qui accompagne ton projet, puisque tu travailles différentes disciplines, tu explores de nouveaux territoires comme ça, notamment avec ton groupe Four Sissies, ou encore avec un livre collectif qui s'appelle Bande organisée, qui est sorti chez Seuil et qui est né du transport d'un livre de Pierre à travers la France pendant le confinement, et qui résonne quand même avec ta musique. J'aimerais savoir à quel point est-ce que tu nourris la porosité entre toutes ces disciplines.
Ben, je sais pas trop comment ça se passe chez moi, en vrai. J'ai fait des études d'art, enfin pas vraiment, plus d'art appliqué, mais je sais pas, j'ai toujours débordé du cadre, et même là, pour moi c'est vraiment de la musique cet album, mais c'est vrai qu'on parle d'art total, vu que j'ai ce costume, en fait c'est un peu des solutions que je trouve pour faire les choses, même le livre en pierre, j'étais confinée... J'ai des amis qui m'ont dit, viens, on fait ça, ok quoi. Enfin, c'est pas trop calculé. Je pense que ça sort comme ça doit sortir, la forme des choses. Et à chaque fois, ça m'apprend, ça me porte aussi. Ça m'apprend beaucoup sur l'œuvre. Enfin, l'œuvre m'apprend qu'est-ce que c'est l'art. Je me suis dit hier que peut-être j'allais chercher du chaos pour lâcher le contrôle et pour circuler quoi, le plus dans le vivant, quoi. Je sais pas. Être dans le présent et j'accueille un peu ce qui se passe. Mais du coup, parfois, c'est dur de ranger ma chambre, quoi. Enfin, ma chambre, je veux dire mes projets, quoi.
Oui. J'aimerais beaucoup discuter encore plus avec toi, mais on est arrivé à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Lutèce Loch Ness. Je rappelle que la Ferrarock soutient Le Chat, ton premier album, qui sort sur le label Pan European Recordings. Merci et au revoir.
Merci beaucoup.
C'est une des artistes sélectionnées en tant qu'inouïe du printemps de Bourges, d'origine réunionnaise et venue de la scène musicale du Limousin, Holtis mêle trip-hop, electronica pour faire émerger des thèmes sombres et crier à la fois colère et résistance. La Ferrarock, lors du printemps de Bourges, a capté sa prestation live, en voici un extrait.
Oh! some dark shit, some hard industrial.
Fun. Take it. feel so good. Merci Bourges. Passez une bonne soirée. Merci pour l'amour. Merci. Merci. Merci.
Dig, dig, dig.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, Lucie de la radio Westrac au Havre ainsi que Jordan de Radio Méga à Valence vous présentaient les deux découvertes de la semaine. Il s'agit de Heart Attack par les Américains, sorti le 27 mai en autoproduction, et Le Chat par Lutès Loch Ness, sorti le 5 juin via Pan European Recording. Et enfin, nous clôturions cette émission avec le live de l'artiste Holtis, dont vous pouvez retrouver ses actus sur ses réseaux sociaux et sa musique sur Bandcamp. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.